Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, le gouverneur du Nord Kivu vole au secours des milliers de déplacés de guerre et a trouvé refuge à Minova et à Bwerebana. Le général Peter Chirimwami leur a remis hier après-midi des vivres et des non-vivres de quoi soulager leurs souffrances. Réaction de la CENCO à la tentative de déstabilisation des institutions de la RDC par la bande à Christian Malanga. Les évêques, membres de la CENCO, invitent le gouvernement congolais à renforcer la cohésion nationale et le peuple congolais à ne pas céder à la peur. Notre invité, c'est le point focal de l'Union congolaise des femmes, des médias, de Beni au Nord Kivu. Madame Julie Longo affirme qu'une cinquantaine de jeunes du quartier Gongolio ont été sensibilisés à l'expression non violente de l'opinion lors d'une activité organisée par la MONUSCO. Madame, messieurs, bonjour. Nord Kivu, des milliers de déplacés de guerre ayant trouvé refuge à Minova et à Bweremana reçoivent une première assistance du gouvernement provincial. Au cours d'une visite sur les différents sites, le général Peter Chirimwami leur a remis hier après-midi des vivres et des non-vivres. Ces ménages viennent de la chefferie de Baoundé dans les territoires de Masisi. Le récit de Bernard Nanyangi.
Venus entre autres de Ngungu, Bweremana, Murambi, Karuba et Ngumba dans le territoire de Masisi depuis plusieurs mois déjà, ces déplacés se réjouissent d'être visités et assistés pour la première fois par l'autorité de la province du Nord Kivu. C'est comme en témoigne ici Baati Munguiko, leur président.
Nous sommes contents de voir notre gouverneur puisque nous étions délaissés ici à Bweremana et à Kashenda. Il nous a amené des habits, des souliers, de l'huile, la farine, du riz, du sel.
Cette visite visait à réconforter cette population victime de la guerre du M23, précise la conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires.
L'autorité provinciale s'est déplacée jusqu'ici à Bweremana pour réconforter d'abord la population, évaluer la situation dans laquelle vivent les déplacés de guerre, afin de mener des plaidoyers parce que d'un côté c'est la guerre, mais de l'autre côté c'est l'humanitaire.
Ces propos ont été recueillis par la presse du gouvernorat. Rappelons qu'à l'issue de cette visite humanitaire, le gouverneur Peter Chirimwami a ordonné l'évacuation vers une structure sanitaire d'une femme déplacée qui a été victime de blessures par des éclats d'une bombe larguée il y a quelques jours par les rebelles du M23 RDF. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nord Kivu, encore un calme précaire règne ce mardi dans les localités qui étaient hier le théâtre d'affrontements entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Ces affrontements ont provoqué du coup le déplacement massif des centaines de ménages. Le papier de Bernard Nyangi est rendu par Chris Moukand.
Dans la chefferie des Bachali, les groupes armés, les rebelles du M23 maintiennent leurs positions initiales après les rudes combats qui les ont opposés presque toute la journée d'hier lundi autour des villages Mpati et Nyangé dans le groupement Bachali Mokoto. Plusieurs centaines de familles du coin ont fui ces combats prenant la direction de Kirumbu, Kalengera et d'autres vers Busumba et Bweru entre autres, indiquent nos sources. Par ailleurs, dans le groupement Mufudi Matanda, quelques sources parlent d'une avancée des combattants locaux et éléments FRDC qui auraient reconquis de main de rebelles M23 quelques localités, éloignant ainsi les combats du chef-lieu du territoire. Ces sources citent notamment Kisuma, près de Bihambwe, ainsi que Kaniro, Luke, Katobotobo et Shakingi, qui sont passés sous le contrôle de l'armée congolaise et groupes armés locaux après des rudes combats. Cependant, tout reste à vérifier car, en plus du fait que la zone autour de Bihambwe et Rubaya reste instable, la région est également coupée de toute communication téléphonique.
5 miliciens Mobondo ont été arrêtés hier après-midi lors d'affrontements survenus avec les FARDC à la frontière du Kwilu et du Kwango. Les FARDC ont à l'occasion arrêté en même temps une femme fétichiste qui tenait les forces obscures des assaillants. La nouvelle est annoncée à Radio Okapi par le député national élu de Bagata. Gary Sakata est au micro d'Iremo Bonzolo.
Il y a eu des affrontements entre le FARDC et les miliciens faisant partie du groupe Mobondo. À la suite de ces affrontements, non-voyantes forces armées ont mis la main sur quelques miliciens Mobondo, à peu près 5, Et ils ont également mis la main sur une dame qui initiait ces bombondos aux pratiques fétichistes. Tout ce petit monde se trouve être à Fatundu, où ils seront certainement acheminés vers Bandundu-Ville, où ils seront transférés à la prison centrale de Bandundu-Ville et éventuellement auditionnés par le parquet. Il y a eu effectivement plusieurs blessés parmi les civils. Et nous demandons donc l'appui de l'État qu'il puisse prendre en charge le 6 personnes qui sont gravement blessées et qui sont au centre de santé de Kingalamatele ainsi qu'à l'hôpital de Kikongo en territoire de Bagata.
Nous saluons et félicitons nos vaillantes forces armées qui ont amélioré leur mode opératoire en étant sur le site en vue de maîtriser tous ces criminels et bandits Mobondo.
Dans un autre registre, les membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, se disent indignés par les attaques perpétrées dimanche contre le palais de la nation et la résidence de Vital Kamerhe à Kinshasa par la bande à Christian Malanga. Dans un communiqué rendu public hier à Kinshasa, ces prélats font remarquer qu'au moment où des efforts sont consentis pour juguler l'insécurité dans l'est de la RDC, il est inadmissible qu'un groupe armé viennent investir la capitale. Ils invitent par conséquent le gouvernement congolais à renforcer la cohésion nationale et le peuple congolais à ne pas céder à la peur. Des précisions avec le secrétaire général de la CENCO, Mgr Donatien Cholet, au micro de Grâce Amzati.
Du côté de la CENCO, c'est l'indignation, c'est la condamnation. On ne peut pas accepter qu'on manque du respect aux institutions du pays et puis qu'on joue avec la vie humaine à ce niveau jusqu'à tuer des innocents qui n'ont rien à faire avec la gouvernance de ce pays. C'est quelque chose que les évêques ne peuvent pas accepter. C'est avec grande stupeur, comme vous avez lu, qu'ils ont appris cette nouvelle. Les évêques mentionnent dans leur message d'indignation et de condamnation le regret de voir le service de sécurité nargué à ce point, mais le plus important, c'est la recommandation que les évêques font aux autorités de s'engager davantage pour renforcer la cohésion nationale. Mais l'essentiel du message, c'est s'indigner et surtout condamner ces groupes armés qui commencent à jouer avec les institutions du pays et surtout la vie humaine.
Au sujet des incidents survenus dimanche dernier à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sortant, Peter Kazadi, a salué la promptitude avec laquelle les FARDC ont débusqué tous les assaillants. Peter Kazadi l'a dit hier soir lors de l'émission Dialogue intercongolais de Radio Okapi animée par Kelinkute Olekute.
Ces gens sont venus du Congo central avec l'objectif effectivement d'attenter à la vie de plusieurs autorités politiques. Il s'agit d'une tentative de renversement des institutions républicaines. Lorsque ces gens vont au siège, donc dans les bureaux du président de la République, ils descendent les drapeaux congolais, symbole de notre souveraineté. Ils hissent un drapeau qui n'est pas congolais. Donc vous comprenez que leur démarche ne visait pas seulement l'élimination physique des autorités politiques, mais également de renverser les institutions de la République. Et malheureusement pour eux, nos forces ont intervenu pour les neutraliser.
Et puis l'ONG dénommée GreatLeaks Human Rights Programme basé à Beni au Nord Kivu s'est dit vivement préoccupé par le retard que prend l'installation du gouvernement et les deux chambres du Parlement congolais. Le coordonnateur de cette ONG recommande au président Félix Tshisekedi Tshilombo de jouer son rôle de garant de la nation et aux députés de mettre fin à leurs divergences. Il a été joint par André Kitenge.
Great Lakes Human Rights Program, GLHP en sigle, fustige la léthargie affichée par les élus du peuple congolais et recommande ce qui suit au président de la République de jouer son rôle de garant de la nation et de commandant suprême des forces de défense et de sécurité en privilégiant les secrets de défense, d'arrêter l'exit de forces des Nations Unies et solliciter auprès de celles-ci un mandat plus contraignant au travers l'application du chapitre 7, car le pays a encore besoin de la présence de ces forces des Nations Unies. Aux élus du peuple, de mettre de côté les interférences pour faciliter la formation du nouveau gouvernement à la nouvelle première ministre et d'accélérer la mise en place de deux chambres du Parlement dans un bref délai pour que le chef de l'État ait assez de large de manœuvre d'agir. À la communauté internationale, de stopper les génocides de peuples congolais qui jouit de toutes les prérogatives en tant que peuple et citoyen du monde.
Santé à présent avec le lancement du Centre d'intelligence épidémiologique pour les Kwilu. Il s'agit d'une nouvelle technologie qui consiste à collecter les informations sanitaires des aires de santé via des tablettes, les analyser et les traiter en temps réel en vue d'une réponse efficace aux problèmes de la santé publique. Ce système est mis en œuvre par les partenaires Santé Monde avec l'appui financier de la Banque mondiale. À Bandundouville, la correspondance d'Irène Bomaluzolo.
Bien équipé en ordinateur et autres matériels nécessaires, PIMPANEF, ce centre d'intelligence épidémiologique qui vient d'être mis en place pour la province du Kwilu va fonctionner 24 sur 24 heures. Au moins 7 personnes qui ont été formées pendant 3 semaines vont travailler de manière permanente dans ce centre, a déclaré le chef de division provinciale de la santé du Kwilu, Dr Jean-Paul Matela, qui parle de son importance.
Nous lançons le centre d'intelligence épidémiologique dans la province du Kwilu avec l'appui des différents partenaires pour que nous puissions collecter les informations le plus tôt possible, analyser les données, traiter et puis pouvoir donner la réponse appropriée aux problèmes de santé. Nous avons plusieurs épidémies qui affectent notre province et grâce à la plateforme eWARS que nous avons mise en place, nous avons à temps réel les informations de toutes les aires de santé et le centre intelligent va encore renforcer ces systèmes de captage d'informations le plus vite que possible pour détecter les alertes.
Docteur Matela insiste sur la stabilité du personnel devant travailler dans ce centre intelligent qui est abrité dans les installations de la DPS Kwilu à Bandundouville. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Des médias américains rapportent que les États-Unis sont disposés à alléger les sanctions contre l'homme d'affaires Daniel Clark. Mais dans le contexte actuel, des acteurs de la société civile s'opposent carrément à cette décision qui, selon eux, favorise l'impunité. C'est ce que nous explique Cynthia Bachizina Bizana.
En 2017, les États-Unis ont sanctionné Dan Gertler pour corruption et violation des droits humains dans le cadre de ses activités minières en RDC. Il a été ainsi banni du circuit bancaire en dollars américains. Pour le coordonnateur national de Filimbi, membre de la coalition Le Congo n'est pas à vendre, il est trop tôt pour évoquer une quelconque levée de sanctions qui pèse sur le milliardaire israélien Mino Bopomi.
Dan Gertler avait profité de son amitié étroite avec l'ancien président Joseph Kabila pour servir d'intermédiaire pour la vente d'actifs miniers en RDC et ainsi obligeant certaines sociétés multinationales à passer par lui pour faire affaire avec l'État congolais. Et il est aujourd'hui très clairement démontré qu'à la suite de ces actions de Dan Gertler, la RDC a perdu, donc entre 2010 et 2012, un montant évalué à 1,3 milliard de dollars de revenus dû à la sous-évaluation des actifs miniers qui ont été par la suite revendus à des sociétés offshore liés appartenant à Dan Gertler.
Pour les acteurs de la société civile, aussi longtemps que la RDC ne sera pas rétablie dans ses droits et récupérée 100% du manque à gagner occasionné, les sanctions américaines doivent être maintenues.
Actualité internationale.
Installation ce mardi à Lomé de la nouvelle Assemblée nationale du Togo. Les 113 députés qui ont été élus le 29 avril lors du scrutin très contesté siègent désormais pour la première fois. Ils inaugurent ainsi la 5e République puisque l'Assemblée sortante a adopté pendant la campagne électorale une nouvelle constitution du pays et qui provoque du coup la colère de l'opposition et de la société civile. Au Mali, le secteur de la presse presse est durement éprouvée ce jour-ci par les délestages. Certains journaux n'arrivent plus à paraître depuis des semaines. Même le quotidien d'État L'Essor n'est pas épargné par ces difficultés. Ce matin, par exemple, le syndicat du journal a tenu une conférence de presse pour faire part de son ras-le-bol. Un deuil national de 5 jours est décrété en Iran après la mort du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. L'appareil qui transportait le chef de l'État iranien s'est écrasé dans une zone marécageuse près de l'Azerbaïdjan au retour de l'inauguration d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais. Bilan, 9 morts dont le ministre iranien des Affaires étrangères.
L'invité.
Notre invité, c'est le point focal de l'Union congolaise des femmes de médias de Beni au Nord Kivu. Julie Longo affirme qu'une 50aine de jeunes du quartier Ngongolio ont été sensibilisés à l'expression non violente de l'opinion lors d'une activité organisée par la MONUSCO. Elle s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Julie Londo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de rencontrer des jeunes de l'Union des jeunes pour le développement et la reconstruction dans le quartier Ngongolo. C'était pour quelle fin?
Oui, au fait, on est venu pour échanger un peu avec le jeune de Ngongolo. C'est par rapport à la liberté d'expression. On a voulu échanger avec eux pour leur montrer qu'on peut exprimer ses opinions sans pour autant être violent. Et donc, on a échangé. On a aussi parlé de la désinformation et de la manipulation de l'information où ils nous ont montré qu'ils sont la plupart des fois victimes de la désinformation. Et du coup, on a eu le temps d'échanger avec eux, de leur montrer comment ils peuvent détecter une désinformation, comment ils peuvent détecter une manipulation de l'information.
Et pourquoi avoir choisi la jeunesse du quartier Ngongolio? Est-ce qu'il y a un mobile particulier?
Oui, au fait, les quartiers Ngongolio, c'est parmi des quartiers qui sont un peu chauds, qui sont la plupart des fois dans la rue pour manifester et tout. Donc, on sait que s'il y a manifestation, faut pas arriver à Ngongolio parce que c'est là même la base où tout se passe. Alors, on a dit, bon, pourquoi ne pas le voir? Et du coup, on a échangé, on a trouvé que ce sont juste des jeunes qui sont manipulés et qui ont promis dorénavant de vérifier chaque fois des informations avant d'entrer dans la rue.
Parmi les causes ou les raisons qui les poussent à beaucoup plus de manifestations violentes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement?
Oui, parmi les raisons, ils ont soulevé la manipulation de l'information, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a l'un qui nous a dit clairement que non, ils sont manipulés. Des fois, on leur dit que non, il y a un véhicule de la MONUSCO qui vient de passer avec des armes à bord, ils vont remettre ça aux ADF et tout. Et du coup, ils se disent, mais comment les gens qui sont censés nous sécuriser contribuent à notre insécurité? La plupart des fois, ce sont des leaders d'opinion qui manipulent l'information et le manipulent aussi. Ils suivent juste les informations dans la rue, dans les médias sociaux.
Et pour quelles raisons les leaders d'opinion manipuleraient l'opinion, si je peux me répéter
Oui, au fait, les leaders d'opinion manipulent la population, c'est pour ses intérêts. Ils peuvent être dans le gouvernement où ils ne savent pas répondre aux besoins de la population. Du coup, ils manipulent les informations contre quelqu'un d'autre pour se couvrir, quoi.
Bien, c'est aussi une façon de se prévaloir une certaine importance au sein de la communauté pour se faire une santé politique.
Tout à fait. C'est une façon aussi de se faire connaître parce qu'à Beni, nous savons que si vous voulez avoir une image, si vous voulez vous faire connaître, il faut commencer dans la rue et tout. On a certains leaders qui ont commencé dans la rue à manipuler les gens et puis un jour, ils se sont fait un nom. Du coup, tout le monde veut passer par là.
Est-ce que vous comptez étendre ce genre d'activité dans toute la ville pour essayer de toucher toutes les couches?
Oui, c'était notre but. On a commencé par Ngongolio et nous pensons qu'on peut, si nous trouvons des moyens, on peut même aller jusqu'à avoir des groupes de pression parce que l'UJDR n'est qu'une mutuelle de jeunes. Mais il y a maintenant ces groupes de pression là qui, eux aussi, ils sont dans des groupes de pression, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils entrent dans la rue, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Et aussi, ce sont des gens à voir, à échanger avec et à leur montrer la vraie vérité et à leur montrer comment traquer une fausse information ou comment savoir qu'on est en train de manipuler une information. Voilà, et nous avons les soucis d'aller vers eux et d'échanger aussi avec eux. Donc nous projetons d'autres activités dans ces sens pour essayer d'aller plus loin dans les groupes de pression, dans le mouvement citoyen, échanger aussi avec ces gens-là parce qu'ils ont vraiment besoin de la vraie information qu'ils n'ont pas.
Alors, cette question ne concerne pas seulement la région de Beni, mais c'est toute la République. Quel message voudrez-vous lancer à toute la jeunesse du pays par rapport à l'expression pacifique ou non violente de son opinion.
Oui, au fait, le message que je peux lâcher à toute la population de la République, c'est que la violence n'a jamais résolu un problème. Je crois que ça va faire bientôt 10 ans qu'on assiste à des manifestations violentes, mais on n'a jamais eu de solution à nos problèmes. Les problèmes sont toujours là. Les problèmes persistent. C'est nous-mêmes, la population, qui en sommes encore victimes. Donc nous manifestons nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui subissons même les conséquences de ces manifestations violentes. Et donc, le message que je peux lancer, c'est juste appeler la population à une expression non violente. Il y a plusieurs façons de s'exprimer et je crois que le gouvernement peut nous écouter sans pour autant être violent. Donc, exprimons-nous, oui, parce que c'est un droit qui nous revient. Exprimons-nous, mais n'appliquons pas la violence parce que jusque-là, ça ne nous a rien apporté à part d'autres désolations.
Julie Londo, merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le point focal de l'Union congolaise des femmes de médias de Beni au Nord Kivu. Madame Julie Longo a été interrogée par Sadiki Aboubakar. Julie Londo a été interrogée par Sadiki Aboubakar. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté à Kinshasa. Il est 15h20.
Trouvez les informations de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502, puis le 311 sur Vodacom pour ne rien rater de l'actualité du pays.